Bonjour, chers auditeurs de Radio Galère et de Comaguerre. Nous nous retrouvons donc à l'antenne ce mardi 11 novembre. Et en réalité, cette émission est enregistrée la veille, donc aujourd'hui 10 novembre, puisque les jours fériés, les techniciens de la radio ont droit à leurs jours fériés. Et donc, il n'y a pas d'accès, nous n'avons pas accès au studio. Donc, nous allons faire cette émission un peu particulière, enregistrée depuis un local privé. Et pour faire le tour de l'actualité, arrêtez bien entendu à la date d'aujourd'hui, en fin d'après-midi, ce lundi 10 novembre. Donc les événements qui pourront se passer ce soir ou demain matin ne feront pas partie de l'actualité qui vous sera présentée. Mais il y a abondance de toute façon, pas de problème sur la quantité de nouvelles à décortiquer et à présenter. Je vais commencer par un petit sujet, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça permet de mesurer la vacuité et la prétention de M. Donald Trump à faire la politique mondiale sur, comme ça, d'un claquement de doigts parce qu'il convoque des personnages dans son bureau, il leur fait je ne sais quelle promesse, il annonce je ne sais quel miracle diplomatique, et puis en fait, quelques semaines après, la baudruche se dégonfle. La baudruche dont je vais parler aujourd'hui, c'est une baudruche qui tient à la liaison physique, donc géographique, entre deux pays voisins, mais pas assez voisins pour avoir des frontières communes. Je veux parler de la Turquie côté ouest et de l'Azerbaïdjan côté est. Ces deux pays qui s'entendent assez bien, qui ont des liens militaires, diplomatiques, avaient décidé de passer à travers le territoire de l'Arménie, qui n'aime ni l'un ni l'autre, alors la Turquie, on sait pourquoi, et c'est une vieille inimitié. Mais l'Azerbaïdjan aussi a de mauvaises relations, parce qu'il y a eu des conflits, vous le savez, au sujet du Haut-Karabakh, enfin, je ne reviens pas sur toute cette histoire. Donc les deux pays, au moins, s'entendent sur le fait qu'ils n'aiment pas l'un et l'autre l'Arménie. Et ils avaient, sous la bénédiction donc, de ce cher Donald Trump, décidé de passer sur le territoire arménien pour faire une liaison donc, ferroviaire, routière, pour créer un lien permanent, physique, entre leurs deux pays, physiquement séparés par ailleurs. Et effectivement, ça avait été annoncé, alors un grand renfort de communiqué de la Maison-Blanche, spectacle audiovisuel, enfin vous connaissez la Maison-Blanche, le bureau, et Trump qui, avec ses invités, donc invités turcs et invités azéris, avait dit, voilà, c'est réglé, il y a un passage, et ça va passer donc par un couloir qui sera pris, alors je précise bien, sur le territoire de l'Arménie, avec une protection par des soldats des États-Unis des deux côtés de cette espèce de morceaux, cette espèce de parcours qu'on a arraché à l'Arménie, c'est-à-dire il y avait un morceau de l'Arménie qui était privatisé par l'armée des États-Unis au bénéfice de ses deux amis, la Turquie d'un côté, l'Azerbaïdjan de l'autre. C'était quand même assez énorme, mais tout le monde avait laissé dire ça. Et puis en fait, le temps passe, les esprits sérieux se réunissent, les intéressés eux-mêmes se réunissent, et ce qui avait été, je pense, une faiblesse de la diplomatie arménienne au moment où ils avaient accepté ce grand spectacle monté par Donald Trump pour établir des relations donc, entre deux pays sur le territoire d'un pays tiers sur lequel ils n'avaient pas théoriquement prise, et avec peut-être un espèce de consentement rapide obtenu d'un dirigeant arménien, il se trouve que d'une part, du côté de l'Arménie, la population, la classe politique a dû réagir en disant « Mais comment on va avoir un morceau de notre territoire qui sera définitivement vendu aux États-Unis sous protection de l'armée américaine pour faire plaisir à deux pays qui ne nous portent pas dans leur cœur ?» Et la réciproque est relativement vraie. Est-ce que c'est possible ? Et puis il y a eu d'autre part une réaction d'un voisin dont on n'avait pas parlé et dont évidemment Donald Trump ne veut pas trop parler parce qu'il a quand même des rapports un petit peu difficiles et douloureux avec le dit pays. Il s'agit de l'Iran. Alors regardez bien la carte, vous allez voir qu'effectivement l'Iran et l'Arménie ont une frontière commune qui est incontestée par personne, ni par l'Iran, ni par l'Arménie, ni par aucun autre pays du monde. C'est une frontière reconnue internationalement. Bon, donc pour en fait qu'il y ait une possibilité de organiser des transports à l'intérieur de cette région, car c'était ça la motivation, c'était de dire il faut absolument que la Turquie et l'Azerbaïdjan puissent traverser ce petit morceau d'Arménie, et puis comme ça, ça ouvre les transports internationaux directement sur l'Asie centrale, l'Azerbaïdjan, puis au-delà, la Caspienne, le Kazakhstan, etc. On sait tout ça. Bon, c'était ça l'argument. Et la réponse, elle est très simple, c'est-à-dire qu'il a été décidé d'un commun accord entre les deux pays souverains que sont et que restent l'Arménie et l'Iran, qu'il y aurait une route qui irait et des voies ferrées qui traverseraient leurs frontières communes, là où elles existent toujours, et qui permettraient en fait au commerce international de passer non pas à travers l'Arménie qui serait en partie privatisée par l'armée US, mais de passer par d'autres, en particulier par la mer Caspienne, puisque vous le savez que l'Iran est riverain de la mer Caspienne, et puis il y a d'autres possibilités d'accéder donc au territoire arménien, et ensuite du territoire arménien, on peut continuer vers la Géorgie, vers la Russie un peu plus loin, etc. Donc on a là un rétablissement d'une situation qu'on avait cru perdue et qui avait beaucoup surpris. J'avoue que quand on avait vu cette réunion à la Maison-Blanche où Trump semblait avoir tout bouleversé et avoir, alors ce qui était le plus énorme, j'allais dire, Trump avait réussi à faire croire que l'armée américaine allait s'installer ad vitam aeternam, définitivement, sur une partie du sol arménien, avec aucune consultation, bien entendu, de la population arménienne, aucune consultation des voisins, c'était un fait accompli. Alors c'était un peu comme, ça revient un peu sur l'épisode Panama, je suis chez moi, je fais ce que je veux partout où je veux, et personne ne s'oppose. Et bien en fait, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, l'Arménie s'est ressaisie. Je pense qu'il y a eu un fort débat interne, y compris dans la diaspora arménienne. L'Iran a fait comme il fait toujours, c'est-à-dire très calmement, il a avancé ses intérêts et il a parlé concrètement, c'est-à-dire s'il y a besoin d'un système de transport intégré dans cette région pour que cette région participe de l'économie mondiale, dans l'économie multipolaire dans laquelle nous nous trouvons, eh bien voilà, la solution est trouvée. C'est façon de dire, et je voulais conclure là-dessus, que les bouffonneries de Trump, du genre j'annonce un truc, un événement extraordinaire, un accord extraordinaire, quelque chose qui va dans le sens de mes intérêts, j'annonce que l'armée américaine met les pieds dans un pays et va s'installer ad vitam aeternam, donc définitivement sur un morceau du territoire d'un pays avec lequel il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre entre l'Arménie et les États-Unis. Et donc, ça, c'est du Trump à l'état pur. J'arrive, je mets mes gros sabots, comme on dirait, sur le territoire d'un petit pays, et puis je considère que voilà, le monde est réorganisé, puisque moi, j'ai dit qu'il était réorganisé. Eh bien, ça ne suffit pas. La parole de Trump et les élucubrations de Trump ne sont pas toujours et seront de moins en moins suivies des faits. C'est ça que je voulais souligner à propos de cet accord-là. Et donc, je pense qu'on en parlera plus, c'est-à-dire que la chose va se rétablir, les voies ferrées et les voies routières traversant l'Iran et allant jusqu'en Arménie vont être installées tranquillement par un accord entre les deux pays, sans qu'il y ait matière à faire venir des troupes américaines, qui resteront chez elles ou resteront dans des endroits, mais en tout cas pas là. Donc il n'y a pas eu abandon d'un territoire arménien à l'armée américaine. Là, deuxième sujet de bouffonnerie mais trumpienne dans lequel dont on n'est pas vraiment sorti, il s'agit de la réception que M. Trump accorde ces jours-ci au nouveau dirigeant de facto au gouvernement intérimaire de la Syrie, donc le coupeur de tête, M. Al-Jolani, on le connaît. Alors la rencontre avait déjà eu lieu puisque Al-Jolani était venu à l'Assemblée générale de l'ONU, s'était exprimé en tant que chef d'État intérimaire à l'Assemblée générale de l'ONU au nom de la Syrie, avait été reçu ou salué au moins par Trump ce jour-là, mais là on a une réception beaucoup, beaucoup plus officielle, puisque en fait il s'agit d'une véritable intronisation, c'est-à-dire le mot, quoique le mot ne soit pas adapté, mais il s'agit vraiment d'une reconnaissance, et puis Trump porte ce pays et ce président ONU en disant voilà, je vous reçois en grande pompe et j'annonce, c'est là que ça devient très très important, parce qu'on voit pourquoi M. Trump fait tant d'honneur et déroule si bien le tapis rouge pour M. Al-Jolani, c'est que M. Trump annonce qu'il va installer une base militaire des États-Unis dans la banlieue de Damas. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire ce pays est devenu une de nos colonies. Alors, non seulement il y avait des. Alors, on sait qu'il y avait des bases américaines plus ou moins discrètes dans la partie nord-est du territoire de la République arabe syrienne, du temps de Bachar el-Assad, qu'elles intervenaient soi-disant pour lutter contre Al-Qaïda. Alors, je mets le soi-disant, je le souligne une fois, deux fois, trois fois, puisqu'on sait que l'armée américaine laisse venir Al-Qaïda, et puis une fois qu'Al-Qaïda dit, viens, je viens combattre Al-Qaïda. Bon, on connaît la mécanique, elle est classique maintenant. Et donc, ils étaient juste là comme ça. Et puis, Trump avait lui-même ajouté, à l'occasion de, pendant son premier mandat, qu'il y avait dans cette zone-là un forage pétrolier fait par une compagnie américaine, qui s'appelait le Chevron. Et donc, Trump avait déclaré, benoîtement, je me souviens très bien de sa phrase au moment de son premier mandat, ah, puisqu'il y a une société américaine qui est là, l'armée américaine est là pour défendre une société américaine qui a investi à l'étranger. C'est très intéressant de voir la très grande simplicité de l'affirmation. Là où il y a une entreprise à capitaux américains, une entreprise capitaliste des États-Unis, l'armée des États-Unis est là pour la défendre. Que cette entreprise soit dans n'importe quel lieu, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, on peut pousser le raisonnement de Trump jusqu'à son extrême. C'est-à-dire, partout où vous avez une entreprise américaine qui a un local, une usine, des bureaux, etc., l'armée américaine peut à tout moment venir, où que ce soit, chez qui que ce soit, pour dire je défends les intérêts d'une entreprise des États-Unis. Ça va très très loin. Ça veut dire que je peux aller absolument partout. Et si vous ne voulez pas avoir cette menace que l'armée des États-Unis vienne défendre des intérêts d'une entreprise capitaliste américaine, eh bien, n'acceptez pas ce genre d'investissement. Ou alors posez vos conditions très très clairement. Mais ça, Trump l'avait dit. Et ce qu'il a réitéré, c'est de dire, alors là, il n'a même plus dit intérêt américain, il a dit, en fait, il a dit, et la réception de Al-Jolani à la Maison-Blanche veut dire, désormais, la Syrie est une colonie directe des États-Unis, où les États-Unis font ce qu'ils veulent. Et donc, les quelques troupes un peu discrètes qui étaient dans le nord-est de l'Arabie, de la Syrie, de la République arabe syrienne, vont s'installer dans la banlieue de Damas, avec là, pignon sur rue, une vraie base à l'américaine, comme ils savent faire. Et il a été ajouté, pour être très, très précis sur ce sujet, que la base qui était située dans le quart sud-est de la Syrie, donc qui est à la frontière de la Jordanie, la base de Al-Tanf, A-L-T-A-N-F, où est déjà installée l'armée des États-Unis, allait, elle, continuer à fonctionner. Donc on a une vraie prise en main du territoire syrien par l'armée des États-Unis. Comme on sait qu'une autre partie du territoire syrien est occupée par l'armée d'Israël, on se dit qu'effectivement les affaires sont en train de changer d'allure, c'est-à-dire que la Syrie est mise totalement sous tutelle, c'est-à-dire que l'indépendance qu'elle a pu manifester pendant tout le temps du règne, en fait de la présidence plutôt, de Bachar el-Assad et de son père, a été totalement éliminée. Il n'y a plus aucune indépendance, on a affaire à une espèce de république croupion. Tirés dont les ficelles sont tirées par Washington et qui n'a en plus pas les moyens, alors pas de moyens militaires. Il faut savoir que dans les tout débuts de les jours ayant suivi immédiatement le départ de Bachar el-Assad de Syrie, l'armée israélienne a détruit systématiquement tout ce qui pouvait avoir un usage militaire sur le territoire syrien. Donc, Monsieur Al-Jolani est à la tête d'un pays qui n'a pas d'armée, elle a été détruite, ce qui aurait pu faire une armée a été détruit par Israël, et qui a maintenant à la place l'armée des États-Unis. Comment dire autrement qu'il s'agit d'une véritable colonie, de même un État supplémentaire des États-Unis, dans un endroit où ce n'était pas tout à fait vrai. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va dépendre un peu d'une part de la réaction de la population locale. Ça va dépendre aussi des réactions un peu embarrassées de la Turquie, parce qu'il faut se souvenir que la Turquie était le mentor de Al-Jolani, c'est-à-dire que le groupe terroriste dont il était le leader était financé, nourri, formé, armé par la Turquie, et que la Turquie comptait bien avoir une espèce de dépendance, prendre la main sur la Syrie. En fait, ça devient délicat puisque en fait, l'Égypte, enfin, pardon, Israël veut faire la même chose, et les États-Unis sont là, évidemment, du côté d'Israël, parce que, bien entendu, Erdogan, la Turquie est dans l'OTAN, mais enfin, à choisir, le cœur a ses raisons, et de toute façon, le cœur de Trump va toujours du côté d'Israël, et un peu moins du côté des autres, fussent-ils membres de l'OTAN. Ça, rude leçon pour la Turquie, mais c'est comme ça que ça se passe sous le trumpisme ambiant. Je voulais insister là-dessus parce que c'est très très intéressant. Et puisque j'en suis à parler, à évoquer la question de la Turquie, je veux m'arrêter sur un petit événement, alors, qui ne fera pas la une de la grande presse, mais qui est quand même très très intéressant à relater. Vous savez que la République de Chypre, donc qui est membre de l'Union européenne, est en fait soumise à une situation particulière, puisqu'une partie de son territoire est occupée depuis quelques années par l'armée turque, donc celle dirigée aujourd'hui par M. Erdogan et ses généraux, en gros un quart de l'île. Et il y a donc, depuis 1974, au grand dam de l'ONU, puisqu'il s'agit bien d'une agression, d'une invasion d'une armée étrangère sur le territoire d'une république membre de l'Union européenne, j'insiste là-dessus, on ne le dit pas assez, et depuis 1974, il ne s'est rien passé. La Turquie, maintenant sa position en disant, moi j'ai mon armée là, ça devient. J'espère bien qu'un jour j'arriverai à prendre le reste. Alors c'était un peu délicat parce que quand même il fallait violer l'Union européenne, il fallait faire comme si l'Union européenne se capitulait devant la Turquie, ça n'a pas eu lieu. Et un élément nouveau vient d'intervenir, c'est-à-dire que dans la partie turque, il y a eu des élections et le nouveau représentant donc, de la population de cette République turque de Chypre qui n'est pas reconnue internationalement est un personnage qui a décidé de changer de position sur la question de l'île. C'est-à-dire que, au lieu d'exiger, évidemment, il ne peut pas le faire puisqu'il est en position d'infériorité, que ce soit les Turcs qui gouvernent l'île, ça personne n'y croit et l'Union européenne ne pourrait pas l'accepter, je pense même pas les États-Unis, il est en train de dire, il faut que nous trouvions une solution sous la forme d'une solution fédérale pour qu'il y ait bien deux morceaux dans la République de Chypre, un morceau qui serait le morceau à dominante turque et le morceau qui serait à dominante grecque, disons chypriote, dans le cadre d'un seul État, fédéral, donc à l'image, bon, par exemple, des États-Unis. Hein, les États-Unis, c'est un seul État, mais il y a 50 États à l'intérieur. Bon, là, il n'y en aurait que deux, mais c'est vers ça qu'ils s'orientent. C'est-à-dire qu'ils s'orientent vers une recherche de solutions qui soit viable, qui serait, je pense, accepté internationalement, c'est-à-dire que ces deux républiques auraient la liberté des libertés, et puis la souveraineté nationale de Chypre serait exercée par un gouvernement central, fédéral, à l'image de ce qui se passe dans toutes les entreprises fédérales. Le Brésil est une république fédérale, enfin, il y en a quantité d'autres. La Russie est une fédération, et donc il y a une même quantité de membres de la Fédération de Russie qui ont leur autonomie locale et puis qui sont intégrés dans le dispositif global d'un État avec sa souveraineté, son armée, sa diplomatie. J'insiste là-dessus parce que cette évolution et l'élection de ce nouveau personnage est un échec net, très très net pour Erdogan, qui voulait tout sauf ça. Est-ce que c'est un signe de son affaiblissement? On le verra petit à petit, mais c'est un signe du fait que dans la mesure où il se confronte directement maintenant sur le sol syrien à Israël et aux États-Unis, c'est ce qui vient de se passer dans la réception de Al-Jolani à New York, il va être obligé un petit peu de baisser le ton, c'est-à-dire il ne va pas pouvoir faire autant de choses qu'il voulait le faire, et il va plus être obligé de ménager la chèvre et le chou, ménager la Russie, ménager les États-Unis, ménager les voisins arabes, ménager l'Iran en particulier, parce que l'Iran est là, ne dit rien sur ces questions-là, mais l'Iran est très très présent. Et il faut savoir que dans la configuration militaire générale de cette région du monde, la démonstration que l'Iran a faite de ses capacités de défense et donc de contre-attaque balistique remarquable au moment de la riposte donc à l'agression des États-Unis en juin, a montré à qui voulait le voir, et les Turcs là-dessus sont militairement assez bien formés et bien informés, a montré à qui voulait le voir que il ne fallait pas toucher à l'Iran, sauf dégâts très très graves en riposte. Voilà donc la nouvelle position d'Erdogan, lui qui va donc descendre d'un cran, je pense, dans ses affirmations, et qui sera peut-être obligé de trouver d'autres solutions que celles qu'il préconisait. Enfin, il est en train de s'assouplir et de se rendre compte qu'il n'est pas le maître de la région. Il a bien entendu, je l'avais souligné au cours d'une émission précédente, des ambitions dans toutes les entreprises, dans toutes les républiques turcophones d'Asie centrale, donc les langues comme le kazakh, l'ouzbek, etc., sont des langues donc, du rameau des langues turques, donc il y a un cousinage linguistique, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, parce qu'il faut bien savoir que ces nouvelles républiques ex-soviétiques, donc je pense au Kazakhstan, à l'Ouzbékistan, au Turkménistan et subsidiairement au Kyrgyzstan, ces nouvelles républiques, en particulier le Kazakhstan, ont bien l'intention de prendre toute leur place sur la scène internationale et de ne pas se laisser faire. Et en plus, ils en ont les moyens. Pas tellement militaire, mais les moyens économiques. Il faut savoir que les ressources minérales, et pétrolières et gazières de Kazakhstan en font une vraie puissance. Et en plus, les ressources en matière d'uranium. Le Kazakhstan est un des principaux fournisseurs d'uranium au monde entier, en particulier aux États-Unis. Mais ça peut être le cas pour la France, ça peut être le cas pour d'autres. Et donc, c'est très très important de voir qu'on a là des pays qui font moins de bruit, dont on parle beaucoup moins, mais qui sont en train de prendre de l'importance, et qui, évidemment, ne prennent pas de l'importance pour faire plaisir à M. Erdogan. Toute turcophonie mise à part, alors je parle de turcophonie, le mot est un peu excessif, puisqu'en fait, il s'agit de rameaux de la langue, donc des caractères communs, mais pas plus que ça. Les Kazakhs ne parlent pas le turc, et d'ailleurs, il y a une bonne partie des Kazakhs qui parlent encore couramment le russe, et qui, je pense, continueront à le parler. Pour dire, d'ailleurs, et je m'arrête sur le personnage de M. Tokayev, qui est le président du Kazakhstan actuel, ce personnage est tellement à l'aise dans la diplomatie internationale qu'il s'est fendu d'un discours à M. Trump, enfin d'un message envoyé à M. Trump, qui est un petit bijou. Alors, je ne vais pas vous le détailler, mais il a écrit à Trump en disant « Monsieur, vous êtes tellement, tellement brillant, vous êtes tellement le porteur de la paix dans le monde que je vous trouve admirable. » Alors, ça, il s'est livré à un numéro de flagornerie auprès de Trump, où on voit très bien, parce qu'en fait, derrière ça, il va lui vendre de l'uranium, il va lui vendre des tas de choses, peut-être des terres rares, on ne sait pas. Et donc, il s'est livré un numéro de flagornerie dont j'ai rarement vu un niveau aussi élevé, pour montrer d'abord qu'il avait compris quel était le personnage de Trump. Il suffit de le flatter et de le flatter. Alors, il lui disait, oui, vous auriez largement mérité le prix Nobel de la paix, mais vous finirez bien par l'avoir. Enfin, un discours, mais incroyable, mais en fait, il a compris qu'effectivement, c'était comme ça qu'on fonctionnait, c'était comme ça qu'on pouvait avoir des sourires et des communiqués amicaux et laudateurs de la Maison-Blanche. Bon, alors, coup de chapeau à M. Tokayev, qui a l'air, alors je ne sais pas si vous avez des visions du personnage, mais il a l'air il a l'air matois, c'est-à-dire qu'on dit, toi tu es plus malin, tu es très très malin, et sous un sourire très très gentil, sous une bouille toute ronde et tout, M. Tokayev ne perd pas son temps, et il voit très bien à qui il a affaire. Là, ça a été le cas. Voilà pour la... Donc je suis parti dans ces affaires de la région du Moyen-Orient, et je vais faire un petit saut, ce qui était prévu en Côte d'Ivoire. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Puisqu'effectivement, l'élection présidentielle a eu lieu. Là, le résultat a été proclamé, donc le président Ouattara serait réélu. Ce qui n'a pas été beaucoup détaillé, c'est que les taux de participation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, alors, à des degrés inégaux, mais enfin, on est allé à des taux de participation qui allaient entre 5 et 20%, pas plus que ça. C'est-à-dire, cette espèce de déconfiture électorale, c'est réel, c'est-à-dire l'électorat n'est pas venu voter pour le vote de M. Trump, pour M. Ouattara. Donc, M. Ouattara est élu par défaut, j'allais dire, mais en fait, la population ivoirienne n'a pas voté pour lui, il n'a pas l'approbation populaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir dans la foulée des élections législatives, et donc tous ceux qui avaient appelé à ne pas voter et qui concrètement n'ont pas voté, c'est-à-dire la grande majorité du peuple ivoirien, vont continuer de la même façon, c'est-à-dire qu'ils disent l'opération, la fiction électorale de M. Ouattara va continuer, ça a commencé pour les présidentielles, ça va continuer pour les législatives, et ben voilà, on va faire pareil, on ne votera pas non plus pour les législatives, et M. Ouattara sera une espèce de personnage comme une espèce de bulle dans l'air, c'est-à-dire qui n'a plus de racines, qui est coupé totalement du peuple, qui vit dans un petit entre-soi, avec encore le soutien de la République française, qui pèse beaucoup moins fort qu'avant, et le soutien des États-Unis, mais c'est un régime qui ne tient, qui tient sur rien. C'est un régime qui est décollé du terrain. Alors, c'est mal seul, c'est-à-dire on a de plus en plus de pays. On peut même dire ça un peu de la France actuelle, c'est-à-dire d'un côté un groupe dirigeant qui est aux manettes, comme on dit, présidence, ministère, etc., et puis une population qui ne se reconnaît plus du tout dans le personnage. On sait que les taux de satisfaction de la population française pour Emmanuel Macron sont à des niveaux extraordinairement bas, ils n'ont jamais été aussi bas, c'est-à-dire qu'on a effectivement une classe, c'est même pas une classe politique, un groupe au pouvoir qui vit entre soi, qui fait ce qu'il a envie de faire et qui, en fait, n'est plus respecté et n'est plus écouté par personne. Tout ce qu'il peut annoncer tombe à côté. M. Ouattara est à peu près dans cette position-là et, à la différence de M. Macron, il est âgé, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien prendre une bonne retraite avec des gros moyens financiers qu'il a mis de côté, pas de souci de ce côté-là, et laisser les Ivoiriens vivre tranquilles et vivre leur avenir qu'ils décideraient massivement et majoritairement. On n'en est pas là. Mais je voulais simplement souligner que la Côte d'Ivoire a des dirigeants qui ne représentent plus qu'eux-mêmes et aura un parlement qui ne représentera plus que le parti, le pouvoir présidentiel et rien de plus. Ça méritait d'être rappelé parce que c'est un élément important de la situation en Afrique. Alors il y a d'autres cas intéressants en Afrique, mais celui-là l'est particulièrement puisqu'on est à chaud sur un cas d'un régime qui est en train de s'effondrer. Alors qu'il ne pourrit pas sur pied, puisqu'il n'a plus de pied, il est en état de bulle dans l'air, il évite quelque part avec de l'argent qui vient de l'étranger, des intérêts étrangers, des soutiens étrangers, mais son peuple ne s'intéresse pas à lui, et s'il s'intéresse, c'est pour dire qu'il ferait mieux de changer d'endroit pour sévir. Voilà, c'était quelques petits points. Petit point, tant que je suis dans les affaires de transformation et de changement de régime, je m'arrête un instant sur un interview qui est paru sur Russia Today, et qui est interdit sur le territoire de la République française, mais on arrive quand même à le lire. Donc c'est une interview d'un monsieur qui a été ministre du gouvernement de Madame Rina Hassan, donc l'ancienne premier ministre du Bangladesh, qui, vous le savez, en été 2024 a été victime d'un coup d'État. Alors depuis, dans le coup d'État, il est sorti un régime qui est comme il est. Et donc ce monsieur, qui a été donc le ministre, un des ministres de cette dame, M. Moul Hassan Chonburi, fait le point sur la façon dont se sont déroulés les événements. Alors c'est un peu tardif, c'est un an plus tard. Mais il dit exactement ce que l'analyse qu'on pouvait faire dès que se sont produits ces événements, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un coup d'État, d'un renversement de régime, organisé par les États-Unis, avec déjà un président intérimaire qui est toujours là, formé aux États-Unis, qui était là pour prendre le pouvoir, une partie de l'armée qui avait été manipulée pour laisser faire les émeutes organisées, tout le coup d'État, enfin, donc un coup classique de coup d'État, comme on dit, les révolutions oranges, etc. C'en est un de plus. Simplement, je le souligne parce que ça n'a pas été dit beaucoup et puis on n'a pas beaucoup d'informations sur le Bangladesh dans la presse européenne et dans la presse internationale. Donc c'est bien, il y a un des participants, un des acteurs qui était là, bon, qui est parti pour sauver sa peau, qui a expliqué comment tout ça s'était passé. Et on a donc, là c'était sous Biden, c'était pas sous Trump, un coup d'État classique, un renversement de régime organisé de longue date par les États-Unis. Il s'agissait effectivement de compliquer la vie, de l'Inde, puisque l'Inde et le régime précédent, donc à Dhaka au Bangladesh, avaient de très bonnes relations avec l'Inde, donc de compliquer et de faire ce qui est en train d'advenir aujourd'hui, c'est-à-dire de faire du Bangladesh nouveau, donc cet pays sous influence états-unienne, un espèce d'adversaire de l'Inde en permanence et d'en faire un deuxième Pakistan, c'est-à-dire une zone de tension permanente pour affaiblir l'Inde, qui fait trop d'ombre et qui dérange beaucoup les États-Unis, même si elle n'est pas hostile aux États-Unis. Mais l'Inde de Modi montre, elle l'a déjà montré à différentes occasions, que l'Inde de Modi décide par elle-même de la défense de ses intérêts et n'attend pas qu'on lui dicte sa politique et qu'on lui montre quels sont ses intérêts. Ça, c'est, alors, il ne faut pas d'illusion sur le régime de M. Modi n'est pas un régime socialiste, loin s'en faut, mais l'Inde a la taille, a la capacité de se faire respecter. Et donc, quand on peut lui susciter des difficultés à l'Est, au Bangladesh et à l'Ouest, au Pakistan, les États-Unis aiment bien jouer ce genre de petit jeu, c'est-à-dire affaiblir quelqu'un dont on ne peut pas attaquer les intérêts très directement, qu'on ne peut pas bombarder, les États-Unis ne peuvent pas lancer une opération militaire sur l'Inde, mais on l'affaiblit, on lui complique la vie, on lui fait des coups tordus, on lui fait des choses trappes, voilà, on monte les voisins contre l'Inde. C'est ça le but. Donc je voulais souligner là-dessus, parce que donc on y voit clair, il est bien confirmé que les États-Unis ont favorisé le changement de régime au Bangladesh pour compliquer la situation de l'Inde et pour subsidiairement aussi compliquer la situation de la Chine, puisque la Chine avait d'excellentes relations économiques en particulier, pas de relations militaires, la Chine n'a pas de relations militaires, d'assistance militaire avec d'autres pays qu'elle-même, mais des bonnes relations économiques et beaucoup d'entreprises du Bangladesh travaillaient pour des entreprises chinoises. Une partie du textile, il faut savoir qu'une partie du textile du Bangladesh appartient en partie à des intérêts chinois. Et donc si vous voyez, vous allez dans un supermarché français quelconque et vous achetez un vêtement, t-shirt ou pantalon fabriqué au Bangladesh, n'oubliez pas que ça c'est le résultat d'une collaboration assez étroite entre le régime du Bangladesh et le régime chinois. Ensuite, j'en viens à parler de ce qui se passe au Soudan et je reviens sur un sujet que j'ai abordé la semaine dernière pour essayer d'apporter un peu plus de lumière. L'important, c'est de bien se rendre compte qu'il y a deux groupes armés qui s'opposent. L'un qui a le pouvoir officiellement, le pouvoir de monsieur, et l'autre, ce qu'on appelle les RSF, les forces hostiles au pouvoir, donc deux groupes armés très violents qui s'affrontent au détriment de la vie de la population. Ils s'affrontent depuis 2 ans, en gros, au détriment de toute considération sur la qualité et l'état de santé de la population. C'est-à-dire qu'il y a énormément de morts, on est à plusieurs centaines de milliers. On dit que la famine menace dans certaines zones. Et les derniers chiffres qu'on a sur les morts dans le conflit dans la zone la plus à l'ouest du territoire, c'est-à-dire la fameuse zone du Darfour, aux confins du Tchad, seraient de l'ordre de 300-400 000 morts. C'est-à-dire une des catastrophes humanitaires les plus importantes qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux, dans une espèce d'indifférence générale. Non pas indifférence au niveau des communiqués, on dit beaucoup de choses, oh là là, c'est affreux ce qui se passe au Soudan, comment ça se fait, il faudrait que ça cesse, etc. Alors ça, c'est un discours caritatif, un peu onusien d'une certaine façon, de certaines origines, qui n'avance à rien, parce qu'en fait, l'un et l'autre sont soutenus et l'un et l'autre reçoivent des armes et de l'argent et ont des moyens, en exploitant les richesses naturelles du Soudan, de continuer à se fournir en armement. Donc on a bien une situation tout à fait dramatique au niveau humanitaire qui n'est pas débloquée pour l'instant politiquement. C'est-à-dire qu'il y a des interventions extérieures qui permettent aux deux camps de continuer à s'armer, de continuer à tuer, de continuer à mener des campagnes, de continuer à occuper le terrain, de continuer à exploiter des ressources minières ou pétrolières à leur propre compte. C'est ça la situation. Alors, il faut voir derrière ça à qui ça profite. À qui ça profite. Alors, c'est là le fond du problème. Parce que ce Soudan, ce très grand pays qui a été le plus grand pays d'Afrique avant qu'on lui en enlève un petit morceau qui s'appelle aujourd'hui le Soudan du Sud, ce Soudan est un pays qui pose problème. Il a d'abord été, c'est un pays arabe dans l'Afrique, on peut dire. Mais c'est trop simplifié de le dire comme ça, c'est-à-dire il est beaucoup arabe sur la partie le long de la mer Rouge, il est beaucoup moins arabe quand on arrive vers le Darfour où on est pratiquement à la limite du Tchad. Donc, c'est un peu simplifié, Qatar. Mais il est musulman dans une très très large majorité, musulman sunnite dans une très très large majorité aussi. Et il a été, et ça c'est une donnée fondamentale de la question soudanaise, le régime soudanais, quelles qu'aient été ses avanies, quelles qu'aient été ses horreurs, il y en a eu, etc. C'est pas ça le problème. Enfin, si, c'est un problème, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le régime soudanais, avec tous les changements qui puissent avoir lieu depuis dans ces 30 ou 40 dernières années, le régime soudanais était fondamentalement favorable aux Palestiniens et faisait ce qu'il fallait pour que les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza, aient les moyens d'un peu se défendre. Donc ça, évidemment, ça ne pouvait qu'exacerber les tensions entre ce Soudan et Israël. Alors Israël avait déjà réussi presque seul le très joli coup de favoriser la séparation du Soudan Sud et du reste du Soudan, donc d'affaiblir le Soudan et de lui enlever une partie des ressources pétrolières qui sont sur le Soudan Sud aujourd'hui. Et puis Israël voulait absolument éliminer un régime qui, de toute façon, était favorable aux Palestiniens, était favorable non pas verbalement, mais était favorable physiquement et donnant de l'argent et de l'arme, des armements aux Palestiniens. Alors je souligne ça parce qu'il est important de bien voir que d'autres pays arabes peuvent, du bout des lèvres, dire qu'ils sont favorables aux Palestiniens et ne rien faire. Et ne rien faire. Donc dire oui, ah, c'est dommage, comme c'est triste. Alors ça, je réserve ça en particulier. Toutes les monarchies, tous les émirs passent leur temps à ça. Ah mon Dieu, comme c'est triste la situation palestinienne, il faudrait que. Et en attendant, je fais des affaires avec Israël, je ne fournis pas d'armement, je ne donne pas d'argent, je m'arrête là. Mais donc j'ai une posture pro-palestinienne. Et ça s'arrête là. Pour le Soudan, ce n'était pas ça. Donc le Soudan posait problème et ça explique que dans les intérêts actuels qui alimentent le conflit, et peut-être l'alimentent-ils en fournissant des moyens des deux côtés, il y a à l'évidence Israël et puis il y a à l'évidence un autre pays sur lequel me suis déjà arrêté, qui sont les Émirats arabes unis. Alors là aussi, curieux pays. Curieux pays, donc avec très très peu de citoyens et beaucoup d'occupants. Je veux dire, vous pensez à Dubaï, hein, et vous pensez à ce qui s'y passe. Bon, donc les Émirats arabes unis sont l'espèce, j'allais dire, c'est le traître des BRICS. Je m'explique. Les Émirats arabes unis sont rentrés dans les BRICS à la dernière fournée d'entrée dans les BRICS. Et quand on regarde leurs pratiques en matière de politique international, donc fournir des armes pour mettre de l'huile sur le feu des conflits déjà bien bien dramatiques. Quand on regarde la façon dont ils interviennent ici et là, ils sont intervenus en Somalie, ils interviennent donc là, ils sont intervenus en Libye au moment de la chute de Kadhafi, etc. Quand on regarde, il s'agit donc d'un pays qui, tout en adhérant à une espèce de multipolarité internationale et de suite globale et tout, en fait, est un pays qui alimente le terrorisme et les guerres partout où il le peut. C'est d'autant plus facile quand on est un émir qu'on n'a pas d'opposition politique. On n'a pas un parlement qui dit attention, il faudrait ci, on n'a pas, même pas de parlement. Et donc c'est tellement facile, on fait ce qu'on veut avec les milliards pétroliers qu'on a dans ses caisses et on forme et on alimente des conflits humanitaires très très graves. On fabrique de la mort chez les autres. C'est ça les Émirats arabes unis. Moi, je me dis. Je me dis, et je pose la question aux étudiants, est-ce que, enfin, avec des pays pareils dans les BRICS ne vont nulle part. Et je me suis même demandé, et je me pose la question, et je la pose ouvertement, si au fond, les BRICS n'étaient pas rentrés pour se donner cet aspect de double jeu, c'est-à-dire je fais croire que je suis du côté du Sud global, de l'émancipation et tout, et en fait, je passe mon temps à semer la mort, à semer la terreur, dans des conflits et à faire beaucoup, beaucoup de mal, parce que de toute façon, j'ai aucun contrôle et personne ne m'empêche de le faire jusqu'à présent. Alors, il n'y a pas, il faut le dire parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, les BRICS ne sont pas une organisation internationale, c'est une espèce de club. On peut rentrer et sortir. Je rappelle le fait que l'Argentine a failli rentrer, puis est ressortie. On peut y rester, mais ne pas participer beaucoup à la politique collective, on peut profiter de certains avantages des BRICS et se moquer comme du reste de la politique des autres pays des BRICS. Il y a un peu un aspect capharnaüm dans les BRICS, alors je ne sais pas si ça évoluera, mais il faut bien que nous en soyons conscients parce qu'il y a une certaine partie de l'opinion progressiste dans nos pays qui a dit « Ah ça y est, les BRICS c'est la solution ». Alors, ce n'est pas la solution. Les BRICS, c'est effectivement un rassemblement de pays qui veulent prendre leur autonomie vis-à-vis du clan occidental, donc des États-Unis et la filiale de l'Union européenne, mais qui par ailleurs ne sont pas porteurs de projets sociopolitiques bien, bien alléchants. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que, reprenons les Émirats arabes unis, vous avez, je crois, 300 000 citoyens émiratis, et puis vous avez 1,5 million de travailleurs étrangers, alors qu'ils peuvent être des cadres de très haut niveau, des banquiers, des ça et tout, des vedettes de cinéma, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de ce qui, des personnes qui vivent à Dubaï, mais qui n'ont pas d'influence sur la politique de l'Émirat, et donc, en fait, qui sont complices par... innocence, ou parce que de toute façon leur confort est là, ils sont contents de leur confort, donc ils n'ont pas d'influence sur la politique de cet État. Et ça donne une vraie limite des BRICS actuels, parce que je rappelle que l'Arabie Saoudite est aussi dans les BRICS et on pourrait, à une moindre mesure, parce que l'Arabie Saoudite tient une plus grande respectabilité, et puis elle a quand même 35 millions de citoyens, c'est un peu différent, même s'ils ne pèsent pas beaucoup, ou pas du tout dans la prise de décision, mais c'est un peu plus compliqué. C'est ça, la crise, le drame, j'allais dire, du monde arabe contemporain, c'est qu'à la tête de la plupart des pays arabes, et aujourd'hui il suffit d'ajouter la Syrie nouvelle colonie des États-Unis, pour voir qu'il n'y a pratiquement plus personne qui soit capable d'avoir une politique indépendante, ou au moins un minimum autonome, et de ne pas être soumise aux diktats et aux volontés des États-Unis. Reste le cas des pays du Maghreb, au moins de la Tunisie et l'Algérie, et reste le cas de l'Égypte, qui n'est aussi pas tout à fait exemplaire. Alors, ce n'est pas une monarchie, le président Sisi n'est pas un émir, mais l'expression politique de la population égyptienne ne pèse pas très très lourd, alors qu'elle devrait peser lourd, dans la mesure où, d'une part, l'Égypte est mitoyenne de la zone de Gaza, la frontière de Rafah, c'est l'Égypte. D'autre part, parce qu'il y a en Égypte 110 millions de personnes. 110 millions de personnes, et que ça donne un tout autre poids que le million et demi d'Émiratis, le million et demi ou même pas de Qataris, tout ça. Voilà, on aurait un pays qui aura un vrai poids dans le monde arabe, mais qui n'est pas en capacité politique aujourd'hui de le prendre. Alors, il est dépendant, pour toute une série de raisons, de l'argent qu'on lui donne. Il est dépendant aussi du blé, mais il en trouve maintenant beaucoup en Russie, à des tarifs qui sont apparemment satisfaisants. Tout ça fait que ce monde arabe est un monde qui n'a plus de poids, parce qu'il est trop divisé entre les monarques, j'ai oublié dans le nombre le monarque de Jordanie, Abdallah, et puis là où il faut bien comprendre que ces pays n'ont pas de poids politique, c'est que M. Trump est allé les chercher, donc Égypte plus Qatar plus Jordanie, pour être les tuteurs des Palestiniens. J'insiste sur le mot « tuteur », parce que dans le plan Trump, qui n'ira pas loin, puisque de toute façon, d'une part, Israël ne respecte pas le cessez-le-feu, ça tout le monde le sait, et d'autre part, Israël ne veut pas du reste, puisqu'en fait, il veut tout prendre. Donc l'habillage de Trump est un habillage pour la galerie, pour le grand public, pour les grands médias, mais en fait, dans le plan de Trump, il n'y a non pas une indépendance pour un État palestinien, il n'en est pas question dans le plan Trump d'un État palestinien, il est question d'une zone palestinienne qui serait gouvernée par des tuteurs qui sont, je les cite, la Jordanie, l'Égypte et le Qatar. C'est-à-dire que les Palestiniens sont considérés par Trump comme des enfants qu'on tient par la main pour qu'un jour, très très lointain et le plus tard possible, ils deviennent maîtres de leur destinée. Or, c'est exactement ça que les Palestiniens veulent, être maîtres de leur destinée. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt, et il est évident, tout ce qu'on peut lire sous des plumes palestiniennes, qu'elles soient dans la diaspora ou quand ça arrive dans la zone de Gaza ou en Cisjordanie, c'est exactement le contraire. Ils veulent être maîtres de leur destin, ils veulent leur pays, l'État de Palestine, quand il existera, physiquement, concrètement, l'État de Palestine prendra lui-même ses décisions pour lui-même. Donc il donnera à ce moment-là une leçon un peu dérangeante, évidemment, aux émirs et aux petits rois telés, parce qu'il dit, ah ben, chez nous, il y a des élections, on discute, on a une opinion publique, etc. Et il obligera, évidemment, l'Égypte, je ne parle pas de la Syrie, puisque je ne sais pas quand elle sortira de son assujettissement actuel à l'Empire américain, mais ça sera une leçon très intéressante pour l'Égypte. Vous voyez qu'il y a toute une série de problèmes qui sont enfouis dans cette catastrophe du monde arabe, cette désunion du monde arabe et le fait que la voie arabe n'existe pas en tant que telle. Je mets de côté un peu l'Algérie et la Tunisie, qui, alors, dans des conditions différentes tous les deux, avec l'Algérie qui tient une position diplomatique présentable, respectable vis-à-vis des Palestiniens, mais qui a un régime qui étouffe l'opinion sur son territoire, donc un régime aussi ambigu et fragile en ce sens, et il se sait fragile, et il se sait d'autant plus fragile qu'il ne laisse pas la population à s'exprimer à l'intérieur. Donc il peut avoir, et ça c'est une constante dans la position algérienne, le représentant de l'Algérie à l'ONU a des positions très très correctes et satisfaisantes sur la Palestine, et en même temps la politique intérieure fait que le peuple algérien n'a pas voix au chapitre et qu'il est tenu par une main extrêmement sévère dans le silence. D'où une espèce de désespoir de la jeunesse, etc. Tout ça est connu, et en fait on est face à une contradiction importante, et qui s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas de solidarité dans le monde arabe, et enfin en plus il y a la question du Sahara occidental, qui fait que le Maroc, qui lui n'est pas un pays démocratique, est une autre monarchie d'un autre genre, pas comme les monarchies du Golfe ou les Émirs, mais c'est une monarchie, ne fait pas, non, montre, il ne donne pas un exemple pour le monde arabe, bien que, et là je fais très attention au terme, parce que la question de savoir si le Maroc est un pays arabe ou pas, effectivement, pose question, puisque, voilà, je m'interne pas. C'est un pays musulman, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le roi du Maroc est le commandeur des croyants, ça ne fait pas l'ombre d'un doute non plus. Est-ce que c'est un pays arabe? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais ça serait c'est trop facile de le dire comme ça. Vous me pardonnerez d'avoir même dit cette phrase, mais je pense qu'elle a une vraie question, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise lecture du Maroc en France, parce qu'il faut savoir que le Maroc est très très bien représenté dans les sphères gouvernementales françaises. Je veux rappeler qu'il y a eu des ministres d'origine marocaine, que à la direction générale de l'UNESCO, on a mis une franco-marocaine, enfin on a mis M. François Hollande, on a mis une franco-marocaine. Donc les intérêts de la classe dirigeante marocaine et les intérêts de la bourgeoisie française sont étroitement entremêlés. Ce qu'il faut savoir comme une donnée, enfin de la classe politique française actuellement au pouvoir. Bien. Ça, c'était donc un petit volet sur le monde arabe. Ensuite, il importe de faire le point sur ce qui se passe concrètement en Ukraine. Et là, c'est très très important parce que, alors, là aussi, je dis, on est aujourd'hui lundi 10, les événements vont tellement vite que je ne sais pas de quoi demain sera fait, et encore moins après-demain, et encore moins les jours suivants. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de la situation militaire est extraordinairement rapide. C'est-à-dire que pratiquement, presque toutes les défenses ou toutes les places fortes que l'armée ukrainienne avait installées pour éviter que la Russie ne s'étende sont toutes tombées ou en voie de l'être. C'est une affaire peut-être d'heures, de jours. Ça, c'est tout à fait clair au point de vue militaire. Donc l'échec militaire, il est là. Il y a déjà des troupes qui se sont rendues. Il y a des prisonniers en quantité. Donc effectivement, dans ce sens-là, il n'y a plus guère de doute. Mais ça s'aggrave du fait que le gouvernement ukrainien lui-même est en grande difficulté. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans la mesure où vous avez compris que la politique de Zelensky, ça a été de faire en sorte que tout ce qui se passait en Ukraine et sa riposte en Russie, c'est-à-dire l'armée russe attaque telle ou telle installation en Russie, en Ukraine, et donc l'Ukraine riposte en attaquant les mêmes installations. Alors il y a toute une guerre qui est en cours sur la production d'énergie et les unités de production d'énergie qui sont soit des centrales thermiques classiques, des centrales au charbon, des centrales au gaz, soit des centrales nucléaires. Et effectivement, l'Ukraine s'est mise à bombarder les centrales électriques russes. Alors là, la riposte, elle a été très claire et elle a été d'une extrême violence, enfin d'une extrême importance militaire. Ça s'est passé ces derniers jours et ça va probablement continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc ce lundi 10 novembre, pratiquement, il n'y a plus d'électricité sur le réseau en Ukraine. Or, on aborde la période hivernale, c'est le plus mauvais moment, et puis ça veut dire, d'une part pour la population, deuxièmement pour les industries et pour l'activité militaire, tout ce qui est fabrication d'armes, etc., il n'y a plus d'électricité. Donc la situation, ça on ne le dit pas trop, mais la situation à la fois militaire et politique générale, économique, politique générale, est très très dramatique pour le gouvernement ukrainien tel qu'il est. Au point que, et ça ne trompe pas, on ne voit plus, comme il fut un temps, on voyait M. Zelensky pratiquement dans tous les journaux télévisés, pas tous les jours, mais il ne manquait pas de semaine sans qu'on le voie apparaître ici et là, à la faveur d'une réunion de l'OTAN, un jour à New York, un jour à Washington, un jour à Bruxelles, etc. M. Zelensky voyageait beaucoup, il passait toujours à la une des journaux télévisés, et pratiquement, il a presque disparu de la circulation. C'est qu'effectivement, il ne gouverne plus grand-chose, c'est-à-dire que son pays ne fonctionne plus, son armée est défaite, et il est obligé de, je pense, de penser à son départ ou à sa survie. D'autant plus qu'il y a autour de lui maintenant des gens qui disent mais écoutez, ça ne va pas du tout. Donc il y a une espèce de. Alors, pas d'opposition officielle. Je signale que tous les partis politiques sont interdits en Ukraine, que les syndicats sont interdits en Ukraine, que la liberté d'expression n'existe pas en Ukraine. Donc, il n'y a pas une opposition qui s'affiche en disant, Monsieur Zelensky, il faut changer de politique. Il y a une espèce de grognement, d'hostilité sourde, de mécontentement, voire de haine par rapport au personnage qui a mené le pays dans l'état où il est. Pour le grand bien des intérêts de l'OTAN qu'il n'a pas réussi à très très bien desservir. Donc beaucoup d'Ukrainiens vont comprendre, sinon pas déjà compris, tous, que en fait la guerre de l'OTAN contre la Russie, qui c'est ça qui se passe, est une guerre, comme on a dit, jusqu'au dernier Ukrainien. C'est-à-dire qu'ils vont être les victimes expiatoires de ce conflit qui n'est pas le leur. Alors ce conflit a été voulu depuis le coup d'État de Maïdan en 2014, il s'est poursuivi, il se poursuit, mais maintenant il est clair que les Ukrainiens n'ont servi qu'à empêcher la Russie de se défendre et à attaquer la Russie, et donc à favoriser l'affrontement indirect, hypocrite, de l'OTAN directement contre la Russie. Et au niveau de cet affrontement direct, ce que tous les observateurs militaires honnêtes, pas simplement russes, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Angleterre et tout, disent qu'effectivement, dans ce match, dans cette compétition militaire entre l'OTAN et la Russie a gagné. La Russie a gagné, d'une part parce qu'elle a mieux mobilisé, elle a mieux utilisé ses industries d'armement qui tournent à plein, alors que les industries d'armement européennes sont très très en retard. Et puis la Russie a fait, on l'a déjà dit, des pas de géant dans la technique et dans les maîtrises du type de combat actuel. C'est-à-dire que c'est une nouvelle guerre qui a eu lieu et qui a encore lieu ces jours-ci pour encore, que je ne sais pas très très longtemps nécessairement. C'est une guerre d'un type nouveau, avec tout ce qui est drone, vous le savez, avec tout ce qui est missiles balistiques, missiles de croisière, etc. Avec donc une énorme avancée technologique. Et donc il s'est fabriqué depuis le mois de février 2023 jusqu'à aujourd'hui une guerre comme on n'en avait jamais vu, parce qu'il n'en a jamais existé de pareil, avec peu d'hommes impliqués, d'énormes avancées technologiques, principalement du côté russe. Une guerre où on ne voit pas trop les combattants qui sont cachés ici, là, devant des claviers, avec des barres de commandement, etc. Avec, vous savez qu'il y a aujourd'hui des drones filaires, c'est-à-dire que vous pouvez, pour que votre drone ne soit pas intercepté, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas capter la communication entre vous qui êtes l'opérateur du drone et le drone qui est quelque part dans le ciel, il y a des drones filaires. C'est-à-dire que vous branchez une fibre optique, vous connaissez tous les fibres optiques, sur un drone. Et vous faites promener votre drone et personne ne peut savoir quelles instructions il reçoit et quelle image il envoie au conducteur du drone. Alors, faites pas ça sur 50 km, mais pour attaquer un point fort de l'armée adverse, vous envoyez ce drone, vous savez exactement ce qui s'y passe, vous savez qui est à quel endroit, dans quel trou sont terrés les soldats adversaires, où est-ce qu'ils ont fait un stock de munitions, etc. Vous savez tout ça et eux ne savent rien. Je ne détaille pas plus parce que on n'est pas à l'école de guerre, mais c'est ça qui est en train de se passer. Donc, c'était pas comme ça dans les premiers jours de février 2023. Personne ne pouvait dire que la guerre allait prendre ce tour-là. Personne ne pouvait dire que la Russie aurait tellement bien maîtrisé ce nouveau type de guerre qu'elle l'imposerait et qu'elle serait en train de battre non pas l'Ukraine, mais la Russie est en train de battre l'OTAN. L'OTAN, par rapport à ses capacités de production d'armement nouveaux, à des avancées technologiques, on en a parlé pour le fameux sous-marin Poséidon, on en a parlé pour le nouveau missile Burevestnik. Tout ça fait que le combat militaire, il est perdu pour l'OTAN, et que si Trump n'en parle pas beaucoup, parce qu'il préfère parler effectivement de la Turquie, de l'Azerbaïdjan ou de Panama, encore que sur Panama, il n'y a plus grand-chose à dire maintenant, je vais en dire un mot. Donc là, le conflit est perdu. Et donc, je pense que pour les semaines qui viennent, l'idée va être de dire, de ne pas parler beaucoup de l'Ukraine, parce qu'effectivement, maintenant, l'Occident se trouve face à un échec patent, et il ne va plus rester, c'est là que je suis un peu triste, il ne va plus rester que quelques jusqu'au-boutistes, au rang desquels figure Emmanuel Macron, pour dire qu'il faut continuer à se battre en Ukraine. Il va être de plus en plus. Alors il reste lui, il reste le chancelier allemand qui se rêve en nouveau Bismarck, voire en nouvel Hitler. C'est pas très très clair et lui-même, je ne sais pas s'il est très très clair dans sa tête ou s'il rêve. Mais il reste pas grand monde. Il reste d'autant moins de monde que l'Union européenne, du fait qu'elle a soutenu Zelensky et le conflit ukrainien, anti-russe d'un bout à l'autre, alors l'Union européenne en particulier, et la Commission européenne encore plus, donc pensons à Madame von der Leyen, à la ministre des Affaires étrangères du gouvernement précédent, donc Mme Baerbock, etc. Les Européens se sont impliqués dans la guerre contre la Russie d'une façon tout à fait stupide, ça leur a coûté très très cher. Voir l'absence de gaz et de pétrole russe à bon prix, etc. Tout ça est connu, que maintenant ils sont face à des contradictions internes très très fortes. Et je voudrais dire quelques mots sur ces contradictions internes. Ces contradictions internes ont été manifestes par la rencontre qui a eu lieu entre M. Trump et M. Viktor Orban. Alors, Monsieur Viktor Orban, personnage pas particulier dans la Confédération, enfin de l'Union européenne, et qui en fait s'avère, après les contacts qu'il a eus et les positions qu'il a tenues avec Monsieur Trump, d'être aussi à droite que Donald Trump, aussi hostile aux immigrés, enfin, aussi à droite. Et il est tellement proche de M. Trump que M. Trump l'a reçu. Ils ont échangé des propos très amicaux. Et M. Trump a même dit: non, non, mais les sanctions contre l'Union européenne, etc., si elle commerce avec la Russie, ce n'est pas pour vous. J'explique. Trump a dit: je ne veux pas que les pays européens achètent du gaz et du pétrole à la Russie. D'où l'idée, qui n'est pas la sienne, peut-être, je ne sais pas, de faire sauter le gazoduc Nord Stream. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. On peut même avoir envie d'acheter du gaz, mais il n'y a plus de tuyaux, donc on n'en achète plus. Alors ça, c'était très bien. Et puis en fait, M. Orban est venu voir M. Trump et lui a dit: oui, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas de pétrole sur mon sol, je n'ai pas de gaz sur mon sol. Et donc, pour l'instant, je reçois du pétrole et du gaz de Russie, alors par un tuyau qui, lui, n'a pas été détruit et qui passe à travers l'Ukraine. Et donc, si on m'interdit d'acheter du gaz et du pétrole en Russie, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je suis loin de la mer, je ne peux pas acheter. Alors, il pourrait, alors Trump aurait dû lui dire, a dû lui dire sûrement, parce qu'on connaît le vieux sens des affaires de Trump, dire: mais achète du gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Alors, oui, il peut, sur le principe, c'est facile. Le problème, c'est que pour acheter du gaz naturel liquéfié, comme le fait par exemple la France, mais elle n'en achète pas qu'aux États-Unis, il faut avoir un port pour débarquer le gaz naturel liquéfié du bateau qui l'a transporté. Monsieur Orban n'a pas de port sur la mer Adriatique, pas plus que sur la mer Noire, donc il ne peut pas non plus faire venir du gaz naturel liquéfié. Bon. Et donc, Monsieur Trump, dans sa grande mansuétude, a dit à M. Orban, c'est pas grave, on est d'accord sur beaucoup de choses, tu n'aimes pas les Russes, moi non plus, tu l'as compris, mais bien entendu, tu vas pouvoir continuer à acheter du gaz et du pétrole russe parce qu'il faut bien que tu survives, puisque tu fais partie maintenant de mes amis. Alors ça, c'est très très intéressant à relier à un autre mouvement de M. Orban. Monsieur Orban est allé rencontrer Madame Meloni, qui est la présidente du Conseil italien, qui est caractéristiquement une néo-fasciste, puisqu'elle est présidente d'un parti qui s'appelle Fratelli d'Italia, donc c'est un parti néo-fasciste italien, et donc ils se sont trouvés d'accord sur beaucoup beaucoup de choses. C'est-à-dire que, mettez tout ça ensemble, les relations avec Trump, qui est de plus en plus à l'extrême droite, les relations avec Mme Meloni, qui est à l'extrême droite et qui l'était dès le début et qui a été élue en tant que telle sur un programme d'extrême droite, donc il n'y a pas l'ombre d'une nuance à apporter. M. Orban se trouve bien à l'aise au milieu de politiciens d'extrême droite. Et là, ça devient très très gênant, parce qu'il y a donc dans l'Union européenne deux pays donc d'extrême droite, la Hongrie et l'Italie, qui ont d'excellentes relations avec M. Trump lui-même, qui est en train de passer de plus en plus à l'extrême droite. Ça, on l'a compris, par toute une série d'actions qu'il a menées. Et donc l'Union européenne est en crise. L'Union européenne est en crise, au point que, il y a différentes manifestations de cette crise, mais qu'il y a une espèce de coupure entre un camp qui reste encore pro-américain, atlantiste, classiquement, etc. Donc le clan qui serait autour de la France, de la Grande-Bretagne, un peu de l'Allemagne, et puis un clan ouvertement pro-Trump et anti-russe, qui est lui un clan néo-fasciste très caractérisé. Ça rend l'avenir de l'Union européenne très très douteux, et on sait par exemple que Mme von der Leyen est de plus en plus contestée. Alors, elle l'est à juste titre, puisqu'en fait, elle s'est arrogée, avec cet appui américain et cette espèce de soumission des grands pays de l'Union européenne aux États-Unis, de Biden d'abord et de Trump ensuite, au moins pour l'instant, elle s'est installée en une position de pouvoir pro-américaine, tellement pro-américaine qu'elle a commis l'énorme erreur, j'insiste là-dessus, elle a commis l'énorme erreur de signer avec les États-Unis de Trump un accord commercial qui est totalement défavorable aux intérêts de tous les pays européens et qui va coûter très cher à toutes les économies et à tous les peuples de l'Union européenne. Bon, donc elle est totalement liée aux États-Unis, elle est totalement soumise aux États-Unis, et donc ça commence à réagir. Alors ça commence à réagir d'une part du côté de l'extrême droite, donc je parle donc de Mme Meloni et de M. Orban, et puis ça va nécessairement réagir à d'autres endroits. Je pense par exemple à l'Espagne. Le Premier ministre espagnol, M. Sanchez, qui est un élu de gauche, est en train lui aussi de prendre un peu. Alors, il le fait prudemment, progressivement, mais il est en train de prendre ses distances aussi par rapport à cette politique pro-américaine et pro-trumpienne de l'Union européenne. Et donc là aussi, la tension, les tractions internes à l'intérieur de l'Union européenne sont de plus en plus fortes, et l'Union européenne peut-être aura de la peine à survivre à ce système-là, à ce type de conflit au niveau où il est. Elle aura d'autant plus de peine de le faire que la situation économique de l'Europe est mauvaise, d'une façon générale, taux de croissance extrêmement bas, incertitude politique liée au conflit avec la Russie, liée aux fantaisies de Trump qui fait un peu n'importe quoi, qui casse tout et dont on ne sait pas où est-ce qu'il veut aller, et surtout pas défendre l'Europe, il se défend lui et il ne défend pas les autres. Donc une espèce de crise politique, c'est-à-dire absence de perspective, le patronat n'investit plus, parce que où va-t-on, qu'est-ce qui va se passer, la crise politique en France a atteint un niveau que chacun connaît, sur lequel je n'insiste pas, qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on a une espèce de blocage concret, économique, et un espèce de blocage social, c'est-à-dire que les sociétés européennes, les sociétés de l'Union européenne, ne voient pas d'avenir. Alors, c'est vrai pour toutes les couches de la population, c'est vrai en particulier pour la jeunesse de ces pays-là, car imaginez quelqu'un qui finit ou qui va commencer des études supérieures aujourd'hui en France, quel projet on peut lui donner, quelle idée on peut lui dire de son avenir dans 5 ans quand il cherchera du travail, dans quelle branche, pourquoi au nom de qui, à quel niveau de salaire, je crois que l'inconnu est total. Et moi, je suis toujours très surpris quand j'ai l'occasion de parler avec des jeunes gens de cette génération-là. Quand on parle retraite, ça arrive, ils disent que ça n'existera plus. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de désespoir qui est intégré et qui est lié à l'absence de perspective du pays. C'est-à-dire le pays n'a rien à dire, le pays ne voit rien, le pays regarde à 2, 3 mois aux événements, au sexe de Madame Macron dont on se fiche absolument, et le pays ne regarde pas son avenir. Et donc un jeune qui arrive et qui veut faire sa vie, qui a 60 ans de vie devant lui, ne sait pas où aller, comment aller, avec qui, comment, pourquoi. Et donc cet état fait que la société elle-même se grippe, se bloque, se freine parce qu'elle ne voit rien, parce que les politiques ont failli. Car une société qui fonctionne, c'est une société où les politiques, le groupe dirigeant, donne une orientation collective dans laquelle chacun s'inscrit. Alors, peut s'inscrire avec 100% d'approbation, 50% d'approbation, un peu moins, mais c'est de toute façon dans quoi il est. Là, aujourd'hui, on est dans quoi? On est dans on ne sait pas quoi. Regardez les débats au Parlement sur la loi de finances, vous allez voir les débats sur la loi de financement de la sécurité sociale. On ne comprend pas, et en plus, on ne sait pas ce qui va en sortir, puisqu'en fait, il parle, le Parlement parlemente, le Parlement fait des motions, le Parlement vote des amendements qui ne seront pas peut-être respectés, le Parlement s'occupe, mais plus personne ne croit qu'il va sortir de ce Parlement un projet social collectif. Il va sortir au mieux un texte permettant au 1er janvier jusqu'au 1er février de faire fonctionner l'appareil d'État, mais ce n'est pas plus que ça. Et quand par rapport à ça, le président de la République se met encore à dire qu'il faut aller faire la guerre à la Russie, là, je veux dire, je pense que tout jeune qui s'imagine embarqué dans les troupes de M. Macron pour aller faire une campagne de Russie ne peut envisager qu'une bérésina et penser à ses grands ancêtres qui sont revenus, pour ceux qui sont revenus dans le froid et dans la neige jusqu'à Paris. Triste, triste moment. Enfin, donc ça, je vous ai parlé de l'Europe et de ses difficultés, l'Ukraine, c'est clair. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet, mais qui est tout à fait lié au précédent, c'est l'élection du nouveau maire de New York. Parce que, donc, ça, alors, déferlement médiatique considérable, puisque surprise totale, parce qu'évidemment, on ne demande pas aux citoyens français de suivre au jour le jour la politique des États-Unis, à la rigueur quand Trump fait des grandes déclarations, mais les élections locales, le Sénat de chaque État, la police de chaque État, on n'en parle pas ou pas souvent. Là, il se trouve que l'élection du maire de New York est venue sous les projecteurs internationaux, parce qu'il y a eu un effet de surprise réel. Un effet de surprise réel. Il y a donc un nouveau maire à New York qui prendra ses fonctions le 1er janvier. Il se trouve qu'il y en avait un dont il a pris la place, dont on ne parle presque plus. Et c'est par lui que je vais commencer. Parce que le nouveau maire de New York a des caractéristiques sociologiques, etc., bon, sur lesquelles je vais revenir, et qui ont été amplement soulignées, puisque l'effet de surprise vient en partie de là. Mais l'ancien maire de New York, dont on ne parle presque plus maintenant, s'appelait Monsieur Eric Adams. Et il était né à New York, à la différence de son successeur. Il était policier de son État, hein, donc c'était un enfant de classe populaire noire, hein, c'était un afro-américain, et il était devenu, à la force du poignet, le chef de la police, et de là, il était devenu maire de New York. C'est donc une espèce d'ascension sociale pour un Afro-Américain dans cette bonne ville de New York. Et ce monsieur pouvait penser, il y a, disons, un an, qu'il allait être candidat, et il pensait d'ailleurs être candidat à sa propre succession. Et tout ça a cassé soudainement. Alors ça a cassé soudainement parce que je pense qu'il s'est fait des ennemis. Parce que ce monsieur, alors, le portrait est très difficile et puis c'est très controversé, puisque la mairie de New York est un endroit un peu particulier. Il faut savoir que New York, pratiquement, a toujours des maires démocrates. Bon, ça c'est la première donnée qui n'est pas remise en cause aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que tous ceux, et dans l'histoire des États-Unis, il y en a eu un certain nombre, qui ont espéré, à partir d'une position forte à New York, avoir une position forte sur le reste du pays entier, n'ont pas réussi. C'est-à-dire que New York est tellement une ville particulière que le fait d'être puissant à New York, connu à New York, passer, être plus connu à l'étranger parce que la ville de New York est toujours sur les yeux des caméras internationales, ne donne pas accès à un pouvoir politique à Washington. C'est même plutôt le contraire. New York est une ville qui n'est pas à l'image du reste des États-Unis. New York, ce n'est ni la Californie, ni le Midwest, ni la Floride. C'est un endroit à part du monde américain. C'est une ville qui a son caractère propre. Elle l'a depuis les débuts et elle continue à l'avoir. Alors avec, par exemple, une énorme population juive, de très très loin la plus grande des États-Unis, une grande population afro-américaine, et puis une tradition que les républicains ne gouvernent jamais New York, alors qu'il leur arrive quand même assez souvent de gouverner le reste des États-Unis. Donc cette ville internationale, vue comme telle, qui abrite en plus dans le ciel de l'ONU, cette ville n'a pas un destin, elle a un destin propre qui n'est pas le destin du reste de l'Amérique. Et donc M. Eric Adams, qui se trouvait donc en position, alors il avait fait une politique de policier, c'est-à-dire qu'il avait dit, moi, mon travail en tant que maire de New York quand il a été élu, c'est de diminuer la délinquance et de diminuer les attentats. Alors les chiffres sont là, effectivement, la délinquance avait diminué, les attentats avaient diminué, les vols dans le métro, etc. Tout ça avait diminué. Alors de bons esprits disent que ça avait aussi un peu diminué au niveau national. Alors là, je ne rentre pas dans une statistique un peu compliquée, mais lui affichait de résultats satisfaisants par rapport à ce qu'il affichait. Et il était, vu ses origines sociales, il était du côté, alors je veux dire, des pauvres, c'est un peu facile, mais du côté de la classe travailleuse, disons, des États-Unis, et du côté des Afro-Américains qui sont très très nombreux, très très nombreux sur le sol new-yorkais. Et ce personnage, donc, de classe sociale inférieure, soit utilisons les termes de classe pour être clair, ce personnage a été tout d'un coup dynamité, parce que d'une part, il s'est fâché avec Biden, pour des raisons pas très très claires, et d'autre part, il s'est fâché avec Biden, et donc sa candidature à la primaire démocrate a été torpillée par un scandale. Il aurait donc été accusé de corruption, et il a été devant les tribunaux pour ça. Corruption, alors corruption, on ne sait pas trop de quoi il retourne. Lui dit qu'il a simplement favorisé des avancements dans la police pour les policiers, parce que c'est grand la police de New York, c'est de plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc il aurait favorisé ceux qui étaient honnêtes, parce que la police de New York, elle est comme le reste. Dans la police de New York, il y avait lui qui était à sa tête, et puis il y avait aussi des gens pas clairs, des gens qui mangeaient des deux côtés. Donc ça, c'est pas de surprise pour qui lit les romans policiers, pas de surprise. Et donc lui, il disait, bon, ce que j'ai fait, j'ai favorisé les agents de mon service, mes salariés, qui étaient corrects dans le travail et qui ne travaillaient pas pour la mafia. Bon. Je ne suis pas en capacité de dire si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Toujours est-il que ce discours-là, il l'a tenu, mais il n'a pas plu. Et donc, on a commencé à lui compliquer la vie, et il a donc eu des procès pour corruption. Ces procès pour corruption étaient en cours. Certains avaient déjà été abandonnés, et puis un certain Donald Trump arrive donc à la fin de l'année dernière et prend son pouvoir en janvier 2025. Et donc ce Donald Trump arrive et s'intéresse quand même à ce qui se passe à New York, parce que c'est quand même une ville importante et dont le monde entier parle. Et qu'est-ce qu'il fait ce Donald Trump? Très paradoxalement, il insiste auprès du ministre de la Justice au niveau fédéral, à son niveau à lui, au niveau du gouvernement de Washington, pour que les poursuites contre M. Eric Adams soient suspendues. Et il l'obtient. Il l'obtient, c'est-à-dire qu'il y a un juge au niveau fédéral, donc au niveau du pays entier, donc un juge au niveau de Washington, qui dit qu'il faut suspendre les poursuites contre M. Eric Adams, et ces poursuites sont suspendues. La monnaie d'échange, car il y a eu monnaie d'échange, c'est que M. Eric Adams dit, ben, puisque c'est comme ça, moi, je suis libre, je suis accusé de rien, je suis condamné de rien, je me retire sous ma tente. Donc, il s'élimine de ce fait de la course à la succession pour la mairie de New York. Et c'est à ce moment-là que va émerger la surprise, l'étincelante arrivée de M. Zoran Mandanić. Alors là, ça mérite. Alors on est dans un rapport de classe totalement différent. C'est-à-dire, vous prenez un policier afro-américain né à New York, qui a grandi dans la police, qui devient chef de la police, qui se fait élire maire de New York, etc. Donc il y a un vrai New-Yorkais enraciné, un afro-américain, je le précise, je l'insiste. Et vous mettez à la place, alors donc vous avez des éléments de la classe sociale pauvre, hein, c'est l'homme. Et puis vous mettez à la place un représentant d'une classe sociale en cours de constitution, qui est une espèce de grande bourgeoisie internationale transversale. J'explique. Qu'est-ce que c'est qu'une grande bourgeoisie internationale transversale? C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent aller partout, qui, vu leur niveau d'études, vu leur entre-genre social, vu leur origine de classe, sont de toute façon du côté de la classe dirigeante. Et quel que soit le discours qu'on va tenir et que tiendra lui-même M. Zoran Mandanić, il est sur un discours de classe. Et c'est très facile de dire qu'on est pour les Palestiniens quand on voit ça depuis New York et qu'on ne fait rien de plus pour arrêter les ventes d'armes. C'est très facile de tenir des tas de discours sur les pauvres, le transport gratuit, etc. Mais c'est un discours, à la limite, de quelqu'un du haut qui se penche vers ceux du bas. Alors l'électorat, s'y est laissé prendre. Il préférait entendre ça que le discours d'un républicain. D'ailleurs, il n'y a pas eu de discours républicain. Je souligne plutôt que le candidat républicain à la mairie de New York a dû faire 8% des voix ou 9%, pas 10%, et que le deuxième, celui qui a été vraiment battu par M. Mandanić, c'est un autre démocrate qui a quitté le Parti démocrate, mais qui était un démocrate, puisque, je vous l'ai dit, de très très longtemps, New York a toujours été gouverné par des maires démocrates. Et donc, au sein du mouvement démocrate, donc il y en a un qui s'est retiré, mais qui reste démocrate, et qui a passé démocrate, qui a été gouverneur, qui a été maire démocrate, M. Cuomo, et puis il y a ce nouveau venu de cette espèce de classe internationale, très particulière, sur laquelle je vais un peu m'arrêter. Mais donc, on a quelqu'un de la classe, la plus haute classe sociale dans ce monde uniformisé, dans ce monde mondialisé aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons, face à M. Eric Adams, qui, évidemment, ne faisait pas le poids, venu de la base, portant les soucis de la base sur le logement, lui aussi, sur le logement, sur les transports, lui aussi. Là, monsieur Mandanić, il n'invente rien. Ça faisait partie aussi des projets électoraux et des soucis et des priorités de monsieur Eric Adams. Alors, qui c'est ce monsieur? Ben voilà, comment on fabrique cette classe internationale, transnationale, de la haute bourgeoisie transnationale? Ben, on prend un papa et une maman. Un papa et une maman, qui sont tous les deux indiens. Alors la maman, c'est une des plus grandes cinéastes indiennes, qui a fait de très très grands films, qui a été formée à l'université de Harvard, pas n'importe où, après avoir fait des premières études en Inde. Elle n'est pas de la même région que son mari. Et puis le papa, c'est un universitaire aussi indien, qui a été aussi formé à Harvard. C'est pas le cas de la famille d'Eric Adams. Personne de la famille d'Eric Adams est allé à Harvard. Donc ces gens-là arrivent par le haut, rentrent dans la plus grande université des États-Unis, ont un parcours un peu particulier puisqu'ils sont indiens tous les deux et qui se retrouvent à être indiens dans un pays africain qu'on connaît assez peu qui s'appelle l'Ouganda. Qu'est-ce que c'est qu'un Indien dans les pays d'Afrique orientale? Je veux parler des pays, donc les anciennes colonies britanniques, en gros, pour parler donc Kenya, Ouganda, Tanzanie, etc. Les Indiens sont les commerçants qui interviennent, donc c'est la classe moyenne qui intervient et qui tient le commerce, qui tient les affaires, qui tient les banques dans les pays après la décolonisation. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a réussi cette opération néocoloniale très particulière, c'est-à-dire qu'on enlève les dirigeants britanniques, des banques, des entreprises et tout, on met à la place des Indiens, qui sont tous anglophones, puisqu'ils ont été formés dans la colonie indienne, et c'est eux qui tiennent la main sur ce peuple noir qui est là, sous leurs ordres et sous leur contrôle. C'est ça, la bourgeoisie indienne dans les pays d'Afrique orientale, c'est son rôle. Et ils l'ont parfaitement, elle et lui. Donc lui est universitaire, elle est donc productrice de cinéma, et ils vont être formés tous les deux tout en étant en Ouganda, ils vont faire leurs études à Harvard, la plus prestigieuse université des États-Unis. À un moment donné, ils quittent l'Ouganda, et puis ils vont s'installer en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid. Ils n'en souffrent pas particulièrement, apparemment, puisque de toute façon, étant indiens, donc les Indiens, je le rappelle, parce que du temps où le jeune Gandhi, travaillait lui aussi, était installé en Afrique du Sud, il était favorable à la politique d'apartheid. Alors on a fait de Gandhi un personnage particulier, mais il était très clairement dans ce rôle de l'Indien en tant qu'agent de la colonisation britannique en Afrique. Donc c'était le renouvellement du même système qu'avec Gandhi. Et puis à un moment donné, il débarque aux États-Unis, et là ils sont à la limite comme chez eux. Ils parlent évidemment anglais. Lui, le papa, il a fait des livres en anglais sur le fonctionnement de la colonisation, des livres qui ne sont pas inintéressants. Sa femme a fait des grands films, elle est connue. Alors donc on a une famille riche, qui est comme chez elle aux États-Unis, qui est chez elle à peu près partout, parce qu'elle fait partie de la couche dirigeante transnationale qui existe aujourd'hui. Ça, c'est très très intéressant à souligner, parce que même Trump est mal à l'aise par rapport à cette catégorie sociale. Alors on a fait de Mandani une espèce d'anti-Trump, on verra bien, parce que on verra bien, et là j'en viens à la suite, donc j'ai essayé de situer socialement l'ancien maire de New York et le nouveau maire de New York, qui prendra donc ses fonctions le 1er janvier. Ce qui est important, c'est de le situer socialement et de voir que, de toute façon, la politique qui veut mener en faveur des bus gratuits, des logements pas chers, etc., ne se développe qu'avec les financements de l'État de New Jersey, donc un financement qui lui échappe, et avec peut-être des financements fédéraux. C'est-à-dire qu'en fait, la marge de manœuvre d'un maire des États-Unis, et d'un maire de New York plutôt, est relativement faible. Donc on verra bien ce qu'il en fait, et puis on verra comment le reste du Parti démocrate, qui ne l'aime pas, car il y a une partie du Parti démocrate qui n'aime pas M. Mandani, le laissera fonctionner. Voilà, alors j'en dis pas plus, je ne condamne pas à l'avance, on verra bien, mais surtout ne croyez pas, ce que l'image qu'on a essayé de donner, que vous avez à faire un jeune issu de l'immigration qui, à la force du poignet et par ses qualités personnelles, est en train de monter dans l'appareil politico et dans les classes sociales. Non, il arrive par le haut et il gouverne par le haut. Alors il gouverne peut-être pour faire du bien à ceux d'en bas, on verra, mais il faut bien le situer pour ce qu'il est, d'où il vient et comment il se situe dans la stratification sociale internationale qui n'est pas que celle des États-Unis. Voilà ce qu'il importait de rappeler. Je parlerai plus abondamment la semaine prochaine du sommet de la CELAC, donc la Communauté économique des pays d'Amérique latine, simplement puisque le sommet est en train de s'achever aujourd'hui, où je vous parle. Retenez simplement que tous les pays qui étaient là, et les quelques représentants très modestes de l'Union européenne, parce qu'ils n'étaient pas très très nombreux, les pays de l'Union européenne qui étaient représentés là, ont dit que l'Amérique latine devait rester un endroit de paix et qu'ils condamnaient toute action militaire, donc toute action militaire prévue et organisée de la part de Donald Trump. On en reparlera, puisque de toute façon, la Russie a fait clairement savoir qu'il y avait des choses qui ne pouvaient plus se passer dans cette zone-là. Et on a une espèce, je finirai là-dessus, on a une espèce de contre-exemple, c'est-à-dire autant, vous le savez, on a beaucoup dit à propos de la guerre en Ukraine, dans la mer Noire, au-dessus de la mer Noire, à droite de la mer Noire, à gauche de la mer Noire, il y a des avions anglais, des avions américains, des bateaux de guerre anglais-américains dans la mer Noire et tout. Ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie a dit maintenant, je peux faire la même chose exactement au large du Venezuela. C'est-à-dire, il peut y avoir des sous-marins soviétiques, non pas soviétiques, c'est russe maintenant, il peut y avoir des sous-marins, il peut y avoir des bateaux de guerre qui viendront, parce que ça fait partie des accords que la Russie et le Venezuela ont signé, qui sont ratifiés, qui sont passés au Parlement, et Poutine a signé les décrets sur ce traité d'assistance stratégique la semaine prochaine, donc la semaine dernière. Donc il peut s'appliquer. Sachez que là, on a une symétrie, c'est-à-dire l'OTAN vient se montrer dans la mer Noire aux frontières de la Russie vient se montrer aux frontières des États-Unis à quelques kilomètres de la Floride. On en reparlera. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.